واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'ai une question. Cheikh Bilal, est-ce que tu veux que je te réponde tu préfères en privé ou est-ce que je te réponds maintenant? Parce qu'en privé, ça mettra plus de temps. Mais si tu préfères en privé, il n'y a pas de souci. Maintenant, Alhamdulillah. Parce qu'en privé, comme j'ai beaucoup de questions, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Je réponds, hein, mais des fois, ça met plus de temps. Donc celui qui veut vraiment une réponse à une question, il est sûr qu'on va lui répondre rapidement. Et ben, pendant le cours, au début ou à la fin, pas au milieu du cours, on a plus de possibilités. Pour répondre. Si on a la réponse, attention. Si on a la réponse. Parce que souvent, il faut aller faire une recherche. Voilà. Alors. C'était quoi déjà la question? Taïb. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. J'espère que vous allez bien, on espère que toi aussi tu vas bien. J'aimerais savoir quel est le jugement d'entraîner dans le milieu de la boxe française éducative, c'est-à-dire les jeunes où les coups ne doivent pas être forts, ils portent leur protection, etc. Barakallahu fik, oustaz, wa fik barakallah. Alors, la boxe, plus particulièrement ici, la boxe, c'est anglaise, hein, c'est pas française, anglaise, oui, anglaise. Les savants, hein, me semble, c'est les savants, une fatwa des savants du comité permanent, Fatawatul Lajnatul Da'ima, qui disent que la boxe, ce qui est haram, c'est lorsque deux personnes, ils boxent dans l'intention de causer des blessures corporelles, premier haram, deuxième haram, et que les gens viennent regarder en étant satisfaits. Les blessures corporelles, les matchs de boxe dans le ring, tout ça. Donc à partir de cette fatwa, on déduit que toute boxe en salle, dehors, où vous voulez, où le but sera de causer des blessures corporelles, ça sera haram. Déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme on le sait dans la religion, et ça c'est selon les textes, il n'est pas permis de frapper au visage, c'est pas permis de frapper au visage. Dans ces cas-là, si on entraîne des petits enfants à la boxe, Il va falloir leur expliquer. Il va falloir leur expliquer que vous pratiquez la boxe en tant que sport et c'est pas pour l'utiliser dehors. Ce n'est pas pour l'utiliser dehors ou pour frapper le visage et causer des blessures corporelles. Wallahu a'lam. Si tu veux, Inch'Allah ta'ala, je préfère poser la question. Moi, je t'ai donné la fatwa de Fatawatu Lejnatu Daima, en général la boxe. Le problème, c'est que là, c'est ciblé, c'est-à-dire c'est un sport ciblé. La boxe anglaise, tu m'aurais dit kickboxing, MMA, tout ça. Ça, à la rigueur, ça aurait pu être possible tout en faisant un réglage. Ça veut dire que tu vas utiliser du MMA ou du kickboxing, tout ce qui n'est pas... Tu vas le prendre comme sport, mais tu frappes pas les gens au visage. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. On vous parle en connaissance de cause, hein. C'est pas j'ai entendu, on m'a dit. C'est pas j'ai entendu, on m'a dit. Naham, on est diplômé dans certains de ces sports nous-mêmes, hein. Taïb. Donc, à la rigueur, tu m'aurais dit kickboxing, MMA ou quoi. On aurait pu te dire juste tu vas modifier ce sport en mode musulman. Tu vois? Tu peux faire des combats ou entraîner des gens en leur montrant les mouvements au visage, mais voilà. Les blocages, etc. Mais sans frapper au visage, etc. Mais la boxe anglaise, c'est que du frappage au visage. Enfin. Au maximum, c'est le visage. C'est pas que le visage, hein. C'est toute la partie du haut du corps, hein. Donc là, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Donc, je t'ai donné la fatwa de Lejnatu Daima, dans le sens où si c'est pour faire des combats, tout ça, ça c'est haram, hein. Il n'y a pas de doute sur ça. Maintenant, entraîner des enfants, je poserai la question, Inch'Allah. Je vais poser la question, c'est mieux. Ouais, je te donnerai la réponse, Inch'Allah. En tout cas, même en salle, faire du sparring et frapper fort au visage, même ça, Allahu a'lam, je crois que même ça, faut éviter, c'est pas bon. Wallahu a'lam, sauf si tu me dis les deux, ils maîtrisent, il n'y a pas de coup au visage, c'est bloqué, c'est remise, blocage, esquive, il n'y a pas de coup au visage en réalité quand c'est comme ça. C'est juste pour s'entraîner comme ça, à la rigueur. On n'a pas l'intention de causer des blessures, de frapper au visage. Mais des fois en salle, par expérience, hein, des fois en salle, t'es pas avec des gens sages, musulmans, ou des fois t'es avec des gens, ils veulent taper. Donc là, Allahu a'lam, ils veulent frapper et fort, et au visage, même à l'entraînement. Donc ça risque d'être, Wallahu a'lam. Pour les enfants, je vais poser la question sur Bilal. Voilà. Taïb. Donc on se rejoint aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour notre cours sur le Wafiq Barakallah, Cheikh Abdallah. Wafiq Barakallah. On se rejoint aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour un cours sur le comportement. Alors ça tombe bien, parce que ce matin, je me suis rappelé d'une faïda par rapport à un cours d'hier, avec les anciens élèves, par rapport à la question d'un frère qui nous disait c'est difficile de changer au niveau du comportement, il y a des choses qui sont difficiles, des fois il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens, ils ont du mal, voilà, ils ont du mal à rectifier le comportement. Alors nous, alhamdoulillah, on a essayé de répondre du mieux possible, mais ce matin, je me suis souvenu d'une faïda. Je me suis souvenu d'une faïda, subhanallah, et elle n'est pas des moindres, hein, parce que C'est un facteur fondamental. Alors cette faïda, comme je l'ai, on l'a fait partager dans les groupes, je vais vous la lire, inshallah. Voilà, faïda importante par rapport à la question d'hier, pour qu'une personne puisse vraiment changer, les savants disent qu'il faut qu'elle quitte le pays où elle a grandi dans les péchés et autres. Et autres, c'est-à-dire désobéissance, injustice, tout ce que vous voulez. Car ce pays va toujours la tirer en arrière, va toujours lui rappeler les péchés et les désobéissances. Le pays où la personne a évolué, elle a grandi, elle a connu les péchés, elle s'est éduquée d'une certaine manière, ce pays, certains savants disent, si tu veux vraiment t'éduquer et changer et arrêter tous les péchés, alors, Inch'Allah Ta'ala, il te faudra quitter ce pays. Certains savants ont argumenté comme preuve le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Le savant lui a dit, va dans un endroit où les gens sont vertueux, c'est-à-dire pas d'influence au retour au péché. Il est donc impératif que si une personne veut vraiment changer, elle ne doit pas rester dans le pays de mécréance où elle a grandi. Alors donnez-moi 2 petites secondes. Hein. 2 petites secondes, je règle je suis en train de régler un petit truc. J'envoie un message à l'admin. Hein. J'envoie un message à l'admin. Voilà. Voilà, je t'ai envoyé un message. Donc, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que j'ai enregistré? Oui. Voilà, ça c'était une faïda pour vous. C'était une petite faïda par rapport à une faïda dont que je me suis souvenu, je m'en suis souvenu hein, ce matin. Et c'est une faïda très importante dans le comportement. C'est une faïda très importante dans le comportement. À ce propos, peut-être qu'un jour on pourra faire un cours sur ça. Le hadith de celui qui a tué 99 plus 100 personnes, en surface, comme ça, les gens ont un petit peu des marloumettes, c'est-à-dire des connaissances. Mais il faut savoir qu'il y a des savants qui ont expliqué ce hadith. Vous pouvez même faire des recherches, hein, tout seul, comme ça, vous pouvez faire des recherches. Et qui ont rapporté énormément de fawaïd juste sur ce hadith. Pourtant, il n'est pas long. Hein. Juste sur ce hadith, on en a tiré d'énormes fawaïd sur le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Par exemple, comme ça, concernant ce hadith, il y a une faïda déjà. Alors, s'il y a des gens qui ne connaissent pas ce hadith de celui qui a tué 99 personnes, vous nous le dites et Inch'Allah, on essaiera de le mettre sur le chat, le hadith entier ou dans les groupes, pour que vous puissiez avoir accès à ce hadith dont on est en train de tirer quelques fawaïd. Donc, dans un premier temps, ce hadith de celui qui a tué 99 personnes, on a la faïda. Très importante, et oui, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونِ وَالَّذِينَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Est-ce que sont au même niveau celui qui sait, qui connaît et celui qui ne connaît pas? Parce que cet homme, lorsqu'il est parti demander à une personne qui n'était pas des gens de science. Cette personne, eh ben, elle a donné une réponse erronée qui lui a coûté la vie. Et quand il a demandé, et dans un même temps, lui, il n'a pas été illuminé par la science. Il n'a pas été illuminé par la science religieuse. Et quand il est parti demander à un vrai savant, il a fini au paradis. Vous voyez la différence? Quand il a demandé à un ignorant, ça a aggravé son cas. Il est passé de 99 meurtres à 100 meurtres. Et quand il a demandé à une personne de science, il a fini au paradis. Vous voyez la différence quand tu demandes à des ignorants et quand tu demandes à une personne de science. Ça, c'est une première faïda, mais elle est forte, hein? Elle est forte. Et petite constatation aujourd'hui, vous constaterez qu'énormément, énormément de gens, ben, ils ne demandent pas aux gens de science. Ils demandent à n'importe qui, comme ça. Et au lieu de remédier à leurs problèmes, alors quel que soit le problème, ça peut être un problème, je suis ignorant dans telle question religieuse, ça peut être un gros problème qui va s'aggraver. Toi, au lieu de demander aux gens de science qui ont le remède, la lumière à ton problème, eh ben, tu vas demander aux ignorants. Oui, c'est bon, tu peux faire un crédit. Oui, c'est bon, tu peux faire ci. Oui, c'est bon, tu peux faire ça. Je vois pas pourquoi ça serait haram, comme dans les réseaux sociaux, hein. J'ai vu des fois des commentaires, je vois pas pourquoi ça serait haram. Haram, wallahu al-musta'an. Également, parmi les fawaïd concernant ce hadith, les fawaïd concernant ce hadith, c'est que parmi les fawaïd, également, comme on a dit, vous remarquerez que le savant lui a dit, pour être pardonné, oui, tu seras pardonné, Inch'Allah, mais il faudra quitter la terre de mécréance, donc la terre où tu as fait tous les péchés, où tu as fait toutes les désobéissances, tu vas à un endroit, tu vas sentir quelque chose, ça va te rappeler. Tu seras toujours tiré vers les péchés. Dans le pays où tu as grandi de mécréance, tu seras toujours tiré. Ça ne veut pas dire que les gens y feront attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de musulmans, il n'y aura pas de gens pieux, mais les savants disent, tu seras toujours tiré vers l'arrière. Alors regardez ce qu'il lui a dit. Va dans un pays où tu vas trouver des gens vertueux et reste avec eux. Alors là, il y en a des fawaïd, énormément de profit. Déjà que lorsqu'on fait la hijra, on a une faïda, c'est que lorsqu'on fait la hijra, c'est pas pour aller avec des gens qui sont pas vertueux. Tu fais la hijra, l'émigration, tu dois aller dans une contrée, dans un pays où les gens sont vertueux. Parce que tu vas te corriger. Ils vont déteindre sur toi. Ça va t'aider à te corriger. Si tu restes dans un pays où tout le monde est nerveux, tout le monde, et c'est le cas de la France, hein, les gens, ils sont hostiles les uns envers les autres. Ils sont nerveux. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi ceci? Pourquoi tu es musulman? Pourquoi cela? Pourquoi ta femme s'habille comme ça? Pourquoi ceci? Wallahul musta'an. Ça va avoir forcément une influence sur ce qu'on appelle les mœurs et le mujtama. Moi, je l'ai remarqué quand j'étais en France, hein. Les gens, ils sont agressifs, ils sont. Et je vous assure, au risque de vous étonner, quand vous allez dans un autre pays, vous êtes choqué. Il y a un temps d'adaptation. Je vous assure, je vous jure par Allah. Quand tu vas dans un autre pays où les gens sont calmes, ils sont éduqués, tu as un temps d'adaptation, Je connais même des gens qui sont venus de France en Angleterre. Donc pour étudier, ils étaient à l'université. Et au tout début, ces gens de France, ils étaient un petit peu sur le qui-vive, un petit peu, comment expliquer, comme sur la défensive, tout ça. Et c'est les gens dans la classe qui leur disent, mais il n'y a pas lieu d'être comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que les gens dans un autre pays, ils ne sont pas éduqués pareil. Ils sont calmes. Lorsqu'il y a un conflit, ils viennent pas tout de suite aux mains ou aux insultes ou à la bagarre. Et je vous jure par Allah que ce que je vous dis, c'est vrai. Alors toi, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais en réalité, j'ai évolué dans un... Et ça, faut sortir pour le... Faut vraiment sortir pour le vivre. Hein. Mais vraiment, j'ai vécu dans un pays hostile où les gens, ils sont... Wallah, musta'an. Il fallait sortir pour le comprendre. Et après, tu as un temps d'adaptation. Tu vas peut-être mettre un an à changer, un an à comprendre ça. Wallahul musta'an. Et ça a un impact dans ta vie. Ça a un impact dans ton comportement, dans ta vie. Tu es dans un pays, tu es dans un mujtamar où les gens, ils sont éduqués à... Ils sont mal éduqués, ils sont... C'est pas dans l'absolu, hein. C'est pas dans l'absolu, mais tu es... Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a des pays, pour pas les citer, où c'est ib. C'est ib. En arabe, ib, ça veut dire c'est pas bien, c'est mal éduqué de regarder l'autre. Je vous jure par Allah. Alors, il n'y a personne qui te regarde. Ou alors, peut-être, ils vont te regarder quand tu as la tête tournée, mais c'est ib, c'est pas bien de regarder l'autre. En France, la plupart des gens, ils te dévisagent, ils te regardent, qu'est-ce que tu as à me regarder, etc. Tu vis dans des mœurs qui sont pas bonnes. Donc, il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Sinon, peut-être, tu vas jamais t'éduquer. Alors, on nous dit. Et ne retourne plus dans ton pays car c'est une terre mal dans le hadith. Le prophète a dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Et ce qu'il restait quelques possibilités de se repentir. Il voulait se repentir. Le moine dit aussitôt non. Il le tua sur le coup. Et compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis il demanda quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui en désigna un. Il lui dit, j'ai tué 100 personnes. Ai-je encore quelques possibilités de me repentir? Il lui dit, oui. Qu'est-ce qui s'opposerait entre ton repentir et Allah? Va à tel pays. Ils vivent des gens. Il y a des gens qui ne font qu'adorer Allah. Allah l'exalté. Adore Allah avec eux et ne retourne plus à ton pays, car c'est une terre de mal. Il se mit donc en marche, et lorsqu'il fut à la moitié du chemin, il fut atteint par la mort. Les anges de la miséricorde, ceux qui accueillent les mourants, l'ont accueilli. Les anges de la miséricorde, ceux qui accueillent les mourants, agréés par Allah, se disputèrent à son sujet avec les anges du châtiment, un voulant le destiner au paradis et l'autre le voulant. Les autres le voulant destiné à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges du châtiment dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. C'est alors qu'un ange vint à eux, sous une apparence humaine. Ils prirent comme arbitre. Il leur dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre de mal et de celle qui la sépare de la terre de bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre, et ce furent les anges de la miséricorde qui retirèrent son âme. Je vous rajoute une faïda. En fait, c'est Allah qui a rapproché, qui l'a rapproché de la terre de la Hijra pour que les anges de la miséricorde puissent le prendre. Donc, c'est à partir de ce hadith. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah. C'est à partir de ce hadith, et Barakallahu fik pour l'admin aussi, qui m'avait mis le hadith. En tout cas, barakallahu fikoum pour tous ceux qui m'ont mis le hadith. Hein. Comme ça, s'il y a des élèves qui ne connaissent pas le hadith, barakallahu fikoum en tout cas. Wa jazakumullahu khayra. Parmi les fawaïdes de ce hadith, c'est que parmi les fawaïdes de ce hadith également, c'est que la hijra est une cause de pardon. Les savants disent, il y a trois œuvres, quand tu les fais, Allah il te pardonne tout. Il y a trois choses, quand tu les fais, Allah Muhim, il y a trois choses pour lesquelles Allah Ta'ala, il pardonne tout. La première, c'est l'islam. La première, c'est l'islam. La conversion, quelqu'un qui entre en islam. La deuxième, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage. La troisième, c'est la hijra, l'émigration. Tayyib, wallahu a'lam, vous pouvez trouver ça dans l'explication de Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux, de Sheikh al-Uthaymeen, l'explication de Sheikh al-Uthaymeen. Donc, la hijra, c'est-à-dire l'émigration d'un pays de mécréance à un pays d'islam, c'est une cause de pardon. C'est une cause de pardon pour tous les péchés. Taïb, Naham. Donc voilà, c'était juste un tout petit résumé par rapport à ce hadith pour vous citer quelques fawaïd tirés de ce hadith. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ce hadith, également, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Vous voyez, cet homme, il a passé un instant avec un savant, il a fini au paradis. Donc, si tu veux être guidé sur la vérité, ça passe par les grands savants. Ça passe par les grands savants. Toujours, ils te mettront sur la bonne voie. Toujours, ils te mettront sur la voie du paradis. Taïb. Ils te mettront toujours, les grands savants, sur le chemin du paradis. Taïb. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer notre cours. On a fait une petite introduction hein, avec. Maintenant, vous savez hein, l'importance de ce hadith et les fawaïdes qu'on tire de ce hadith. Elles sont nombreuses. Alors, une petite faïda encore par rapport à ce hadith. Il y a une cassette audio, je ne sais pas si elle existe toujours. Elle est sur YouTube, je pense. C'est en arabe de. Alors, si vous préférez, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il fait un débat, un niqash, avec un tablir, un jeune tablir. Donc, on voit qu'il a un mauvais comportement avec le Sheikh, hein, quand même. On voit qu'il a un mauvais comportement. Si je me souviens, il y a très longtemps que j'ai écouté cette cassette. En tout cas, à un moment, le tablir, il se sert, il croit qu'il peut argumenter pour faire la da'wa comme le font les tablirs. Il croit, il pense qu'il peut argumenter du hadith de celui qui a tué 99 personnes en disant, regardez, il est sorti, fi sabilillah. Et Sheikh Al-Albani lui a fait une réplique. Tellement il pouvait plus rien dire à la fin qu'il avait un mauvais comportement, il coupait la parole au cheikh, etc. Mais il était bloqué, il pouvait plus rien dire. Faire un niqash, un débat avec un des plus grands savants de notre époque, aujourd'hui dans la plupart des livres et la plupart des grands savants, lorsqu'ils parlent d'un hadith, ils disent Sheikh Al-Albani l'a authentifié, Sheikh Al-Albani l'a rendu faible. Sheikh Al-Albani, même les grands savants d'Arabie jusqu'à aujourd'hui, Sheikh Abdelrazak Al-Badr, lorsqu'il parle, alors que son père est un grand muhaddith, hein, à Sheikh Abdelrazak Al-Badr, des fois, dans ses cours, souvent même, il dit Sheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. À l'université de Médine, pareil, dans les cours, dans les livres, les manuels d'études, Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Il l'a rendu faible, il l'a rendu bon. Et vous avez un petit ignorant comme ça, égaré, qui vient et qui veut débattre. Donc, dans un intérêt pour la communauté, Cheikh Al-Albani va débattre pour montrer à la communauté, regardez, regardez, ils ne connaissent rien, ils sont ignorants. Ça, c'est un grand intérêt. L'intérêt pour un savant de débattre avec une personne comme ça, c'est pas pour se montrer, c'est pour montrer, regardez comment ils sont ignorants. Regardez. Et ça, c'est bien. Wallahu a'lam. Taïb. Alors, on va reprendre où on s'était arrêté. Alors, on a. Comment je vais. Voilà. Wafik Barakallah, Cheikh Abdallah. Cheikh Abdelmouhsen Al-Abed a dit: celui qui parle en mal de Cheikh Al-Albani, il ne connaît rien à sa religion, et je dirais même qu'il ne fait pas partie de la Sunna. Barakallah fik, Cheikh Abdallah, mashallah. Mashallah. Mufid. مفيد وجيد جدا ما شاء الله بارك الله فيك تمام alors أين وقفنا في درسنا السابق le statut alors dans le cours précédent on est toujours dans le livre de la science Kitab ul-ilm le livre de la science pour ceux qui ont le livre en français on est page 29. On est arrivé à la page 29. Alors on vous conseille ou bien d'avoir le PDF au minimum, ou bien d'avoir ce livre qui a été traduit en français, parce que c'est un livre inestimable. C'est un livre inestimable. Alors on avait expliqué hein, ça pour les nouveaux ou les nouvelles dans votre classe. On avait expliqué que on avait validé à l'Institut de Tawhid, on avait validé comme quoi vous pouvez prendre comme support de livres en français la maison d'édition El Bayina. Pourquoi? On a dit que nous, on ne validait pas la maison d'édition El Bayina, on mettait même en garde contre cette maison d'édition, mais comme il n'y avait que eux qui ont fait certaines traductions, c'est vraiment dommage et malheureux que les gens de la Sunna francophone, personne ne fait la traduction. C'est vraiment malheureux. Moi, je n'ai pas de maison d'édition, sinon je ferai la traduction avec plaisir. Avec plaisir, je n'ai pas de maison d'édition. Naham. Donc, on a dit que en Darora, en cas de nécessité, on prenait cette maison d'édition pour certains livres, mais qu'on allait filtrer. C'est-à-dire que nous, on est là et on vous dira quand il y aura des erreurs, quand il y aura des... On vous le dira. On vous le dira, Inch'Allah ta'ala. Ça veut dire que nous, on distingue, on fait la différence entre l'original en arabe et celui en français. Et quand il y a des erreurs, on vous le dira, comme on l'a déjà dit, quand il y avait certaines erreurs ou certaines remarques dans la première classe, dans la classe des anciens, on le dit. Donc voilà. N'en est pas moins que on ne valide pas la maison d'édition, comment il s'appelle? Al-Bayina, on ne les valide pas. Ils ont complètement, Wallahu a'lam, ils font l'apologie de la Ikhwaniya, ils se montrent avec des Ikhwani, c'est-à-dire les frères musulmans, donc voilà. Et ils se désavouent des gens de la Sunna indirectement. Donc voilà, Al-Bayina, et vous constaterez que c'est plus commercial qu'autre chose. Également, on avait dit également, et ça, c'est pas on m'a raconté, c'est moi-même. C'est moi-même. À une époque, j'allais acheter des livres quand j'étais en France chez eux. Et une fois, je suis tombé sur un livre où il y avait. Ils ont vendu un livre. Ils vendent des livres, si vous préférez, de Takfiri. Ils vendent des livres de gens qui ne sont pas des gens de la Sunna. Murji'a. Hein, une fois, je suis tombé sur un livre où le cheikh, dans le livre, il dénigrait les ulama de la sunna en disant qu'ils étaient des murji. Donc maintenant, vous savez c'est quoi murji? On l'a fait dans le tawhid. Murji'a, c'est ceux qui disent que du moment que tu es croyant, t'as pas besoin d'œuvrer, de pratiquer, t'iras au paradis. Donc voilà, ils ne sont pas de confiance. Donc nous, on vérifie la traduction et voilà, ça vous fait un support. C'est ça où il n'y a pas de support. Taïb. Donc dans le cours précédent, c'était le premier chapitre. On a terminé le premier chapitre sur le comportement. C'était quoi plutôt? Le premier chapitre sur les mérites de la science. On a terminé le premier chapitre sur les mérites de la science. On entre dans notre deuxième chapitre, le statut, plutôt troisième chapitre, hein. Le statut de la quête de la science. Bismillahirrahmanirrahim. La quête de la science religieuse est un devoir d'obligation sociale. Fardu kifaya. Au kifay. Quand un groupe suffisant de musulmans s'en charge, de façon satisfaisante, satisfaite, il devient une sunna, c'est-à-dire acte préférable pour les autres. Attention, l'apprentissage de la science religieuse peut devenir obligatoire à une personne en particulier, c'est-à-dire un devoir d'obligation personnelle, fardu'ayn. Alors, avant de continuer, on va déjà vous éclaircir ça. Les savants disent, ça vous aide à comprendre la parole de Cheikh Al-Uthaymin ici, les savants disent que l'obligation, l'obligatoire, l'obligation, elle se divise en deux catégories. Vous avez d'un côté l'obligatoire qui est absolu. Si tu ne le fais pas, tu as un péché. Si tu ne le fais pas, tu as un péché et tu rendras des comptes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligatoire en arabe, al-wajib al-ayni. Et d'un autre côté, la deuxième catégorie, vous avez l'obligatoire qui est un obligatoire qui n'est pas, qui est social et pas individuel, qui est social, qu'on appelle, donc qui n'est pas absolu, qu'on appelle en arabe al-wajib al-kifay. Cet obligatoire, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Il n'est pas obligatoire dans l'absolu. Comme par exemple, prier sur Salat al-Janaza, prier sur un mort. S'il y a un groupe de la communauté qui s'en charge, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. L'obligatoire, c'est qu'il y a un groupe de la communauté qui prie sur le défunt. Mais ce n'est pas les musulmans du monde entier qui doivent prier sur le défunt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une obligation, mais pas absolue. Par contre, vous avez la première catégorie qui est une obligation. Ça, c'est absolu, c'est obligatoire, comme faire la prière, etc. Ça, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu as un péché derrière. Tu as un châtiment. Alors, maintenant, l'obligatoire face à la science religieuse. Quel est l'obligatoire qui est visé concernant les sciences religieuses? Alors, il faut savoir que les sciences religieuses, il y a une partie de la science religieuse qui est obligatoire dans l'absolu. Ça veut dire, si tu le fais pas, si t'apprends pas, si t'apprends pas ces choses-là, t'as un péché et tu peux avoir un châtiment. Mais c'est pas toutes les sciences religieuses. Alors les savants disent, la partie qui est obligatoire dans l'absolu, c'est toutes les choses qui sont obligatoires d'apprendre pour l'adoration du serviteur. Tout ce qui concerne le tawhid, la croyance, la prière, les cinq piliers, les conditions de la prière, tout ça, tout, tout. Il y a un paquet de choses. Les choses dans le fiqh, alors dans le tawhid, les choses qui sont obligatoires de connaître. Dans le fiqh, les choses qui sont obligatoires de connaître. Ça veut dire que tu ne peux pas adorer Allah correctement, voire pas du tout, si tu connais pas ces choses-là. Tout ça, c'est obligatoire dans l'absolu. Taïb? Et il y aura d'autres choses qui ne sont pas obligatoires dans l'absolu, comme apprendre la science du hadith, par exemple, comme apprendre le usul al-fiqh, par exemple. Ça sera plus préférable pour l'étudiant en sciences qui... Il veut vraiment être un étudiant en sciences complet. Taïb. Mais sinon, pour le commun, les gens du commun, non, ce n'est pas obligatoire. Mais tawhid, comportement, fiqh, il y a des choses, tout ça, c'est obligatoire d'apprendre. Tout ça, c'est pour ça qu'on les a mis en matière principale. C'est pour ça qu'on les a mis en matière principale. Taïb. Alors, Cheikh Al-Othaymine nous dit, le critère à ce titre est le fait de vouloir accomplir un acte d'adoration déterminé ou de conclure une transaction déterminée, alors qu'on ne sait pas comment le faire de manière conforme à la religion. Il deviendra donc obligatoire à la personne concernée en particulier de connaître le mode légal de l'accomplissement de cet acte d'adoration, ou la manière légale de conclure cette transaction. Tout savoir en dehors de celui-là est un devoir obligation sociale. Taïb. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Al-Othaymine, ici? Il nous donne deux exemples. Deux exemples pour qu'on assimile dans quel contexte la science, les sciences religieuses sont obligatoires. Obligatoires absolues. Tu auras un péché si tu ne le fais pas. Il nous donne un exemple, d'abord, dans l'adoration, là ça veut dire c'est le tawhid. Dans l'adoration, il nous donne un exemple. Dans l'adoration, s'il y a une adoration que tu dois accomplir et tu ne connais pas la manière, le jugement, tout ce qui concerne cette adoration, tu ne connais pas les modalités, tout ce qui concerne cette adoration pour l'accomplir, et ben là tu es dans le péché, c'est une obligation pour toi d'apprendre tout ce qui concerne cette adoration. Et vous le savez, les adorations, il n'y en a pas qu'une. Ensuite, le cheikh, il nous donne un deuxième exemple dans le firqa. La transaction, le commerce. Si tu dois accomplir une transaction ou quelque chose du commerce, on peut donner même l'exemple du mariage, de ce que vous voulez, tu vas entrer dans une question religieuse, comme le mariage, le pèlerinage, tu vas entrer dans transaction, tu vas commencer à faire du commerce, il est obligatoire pour toi de connaître tout ce qui touche à cette question religieuse, le commerce, le mariage, tout ce que tu veux, le hajj, la zakat, ce que tu veux. Hein. Tu dois connaître la législation. C'est obligatoire pour toi. Tu ne vas pas commencer à faire du commerce, par exemple, des transactions, et tu n'as aucune science dedans. Parce que pourquoi, à votre avis, forcément tu vas tomber? Alors c'est vite fait, c'est rapide, hein, c'est rapide de tomber dans ce qu'on appelle riba, l'intérêt. C'est rapide. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui m'est arrivé il y a plus d'une vingtaine d'années. Hein. J'étais pas encore étudiant, c'était avant de partir au Yémen. Et j'étais en contact avec un imam. J'étais proche d'un imam, hein, dans un pays musulman. J'étais proche d'un imam. Et un jour, lui, il m'a demandé est-ce que j'avais de l'euro pour faire du change, pour lui donner l'équivalent en dinars. Et je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Telle somme, on les a en euros, on peut te... Et je lui ai dit, tiens, je te les donne tout de suite. Je vais te les donner tout de suite. Je les ai là. Ou alors, je vais les chercher à la maison. Il y a plus de 20 ans, je ne me rappelle plus les détails. Hein. Je vais te donner ça tout de suite. Il m'a dit, non, non, non. Il m'a dit, non, attends. Faut que ce soit du main à main. Quand moi, tu me donnes les euros, je te donne les dinars. Sinon, c'est du riba. C'est de l'intérêt, c'est du riba. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'allais entrer dans une transaction et je ne connaissais pas le jugement de cette transaction. Et si on était les deux des awam, des ignorants, ce n'était pas un imam avec qui je faisais la transaction, j'aurais fait du riba. Vous vous rendez compte? Il y a plein de portes dans le riba que les gens ne connaissent pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Tu m'as vendu un vélo. Tu m'as vendu un vélo. Je t'ai acheté le vélo 50 euros. 3 semaines après, tu veux racheter ton vélo, 3 semaines ou autre, hein, un jour comme tu veux. Tu veux racheter ton vélo. Je te dis, ok, moi je te le revends, mais je te le revends 100 euros. C'est du riba. Ça, c'est du riba. Du riba, pardon. Ra. Birra. Riba. Taïb. Wallahu a'lam. Taïb. Donc on continue. Ça, ce sont quelques exemples hein, pour vous. Quoi que tu fasses dans la religion, il faut que tu aies la connaissance de ce que tu fais. Sinon, tu risques de t'égarer, tu risques de faire un grand péché, tu risques tu... grave. Attention. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, et c'est pas pour rien, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Wallahu al-musta'an. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit à la suite, il sied à l'étudiant en quête de savoir, de raviver en son cœur le sentiment qu'il est en train d'accomplir un devoir d'obligation sociale, afin de bénéficier aussi de la récompense de l'accomplissement de cette mission, que la récompense de l'acquisition scientifique. Masha'Allah. Nul doute que l'apprentissage de la science est l'une des meilleures œuvres. C'est même une sorte de djihad pour la cause, combat dans la cause, pour la cause d'Allah. Surtout dans notre époque où les innovations en matière de religion, bid'a, commençaient à se manifester, à se répandre et à proliférer. Les sottises sortaient de la bouche d'intrus en manière de fatwa et les vaines polémiques gagnaient les réunions de beaucoup de gens. Ça, c'est clair, hein? Voici donc trois fléaux qui sont censés pousser les gens à acquérir le savoir religieux. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Pourquoi on vous dit que ce livre, c'est un trésor, c'est un bijou pour la communauté musulmane, et qu'en réalité, tout musulman devrait étudier cet ouvrage? C'est pas pour rien dans le comportement qu'on a commencé par cet ouvrage. Parce que, wallah, il y a une éducation, incroyable. Celui qui, même quelqu'un qui connaît rien en tant qu'étudiant débutant, il va suivre les conseils et les orientations de Cheikh Al-Uthaymeen dans cet ouvrage, dès le début, il pourra être mieux guidé que même des gens, ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans, 15 ans, qui adorent Allah, mais comme ça, sans connaissance. Lui, dès le début, il va être orienté sur la bonne voie. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Alors, trois raisons, nous cite Cheikh Al-Uthaymeen, qui font que rien que pour ces trois raisons, on devrait, les gens devraient se tourner vers l'apprentissage des sciences religieuses. Taïb, ça d'ailleurs, c'est, on va le reprendre, hein. Cette parole, on va la reprendre, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. La première, des innovations dont les méfaits commencent à se déclarer. La propagation des innovations. Rien que ça devrait faire peur. La propagation des innovations, rien que ça devrait faire peur. Taïb. Deuxième raison. Des intrus qui ont l'audace d'énoncer les fatwas sans science. Alors, c'est-à-dire que la deuxième raison, c'est qu'il y a les gens qui, les muftis, qui ne sont pas habilités à faire des fatwas, ça s'est propagé, propagé, propagé. Donc la personne, elle doit prendre conscience. La personne, elle doit prendre conscience que ben, il faut apprendre pour pas tomber dans le panneau. Également, troisième, beaucoup de polémiques sur des questions qui peuvent être claires aux yeux des gens de science, mais le problème est à cause de leur ignorance, certains en font un objet de controverse. Aujourd'hui, on fait beaucoup de polémiques pour rien. Alors que si on venait aux savants, aux gens de science, c'est des choses qui sont claires. Aujourd'hui, les gens suivent tellement leur passion qu'ils remettent en cause l'immigration. Non, non, c'est pas obligatoire. La musique, non, non, c'est pas haram. Le riba, non, non, c'est pas haram. Voilà. Les gens aujourd'hui, sur des questions qui avant, elles étaient claires chez les gens de science, elles sont toujours claires. Aujourd'hui, il y a des gens, comme ils sont adorateurs de leur passion, bah, ils veulent créer des polémiques et des problèmes et des controverses sur des questions qui sont claires dans le Coran et la Sunna. C'est pourquoi nous avons grand besoin de gens de science qui ont des connaissances profondes et larges, qui détiennent une compréhension juste de la religion d'Allah et qui ont une certaine sagesse dans l'orientation des serviteurs d'Allah. Beaucoup de gens, malheureusement, acquièrent un savoir théorique sur des questions religieuses, mais ne s'intéressent pas à la réforme des gens et à leur éducation. Si ces gens prennent l'initiative de délivrer les fatwas, cela peut frayer le chemin à un mal dont seul Allah connaît la gravité. Wallahu al-musta'an. Donc, Inch'Allah ta'ala, on en a terminé pour ce chapitre aujourd'hui. Hein. On continuera dans la deuxième section du chapitre dans le cours prochain. Je vais regarder, il me semble que dans le groupe, on a des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se fera un plaisir si on a les réponses d'y répondre. Si on a les réponses, on fera un plaisir. Si vous avez des questions, allez-y. Taïb, alors, je vais dans le groupe des étudiants. Wafik, Cheikh Abdallah. Hayakallah, Cheikh Abdallah. Hayakallah. Il m'avait semblé qu'il y avait. Alors, où c'est que j'ai vu, il y avait une question? Ah, voilà, c'est là. Première question. Avec ces gens, tu ne peux pas bien. C'est pas une question, hein. Avec ces gens, tu ne peux pas bien comprendre le menhej car eux-mêmes ne comprennent pas le menhej. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas te la donner. Ils ne vont t'entraîner que dans la confusion, l'égarement. Parmi les dangers d'écouter ces catégories de personnes, il y a le fait que tu vas chercher à les défendre. Plus que cela, tu finiras, si tu ne fais pas attention, par combattre les gens de la vérité, tout à fait, qui les réfutent, car il va sans dire que lorsque on écoute quelqu'un qui nous enseigne la religion, à moins qu'on ait un problème particulier avec ce dernier, à part cela, on finit par l'aimer, et ceci est un sentiment naturel. Le problème, c'est que ce sentiment, s'il est ressenti pour ce genre de personne, il peut pousser à la haine envers les gens de bien, des gens qui sont sur le manège, car ils sont contre eux. La plupart des innovateurs sont des menteurs, des gens qui rusent, ils mentent sur les savants, sur les gens de la sunna. Ils rusent, ils mentent sur les gens de la sunna, si les gens sur la sunna, afin de soutenir leur fausseté, car ils n'ont pas d'arguments qui tiennent. Ils se sentent donc obligés d'utiliser ces procédés de mensonges et de ruses. Toi qui ne connais pas leur méthode, tu vas te faire piéger. Raison pour laquelle tu ne dois prendre ta science que des gens fiables, qui sont connus pour leur honnêteté scientifique, qui sont connus pour avoir une bonne compréhension des gens qui te rattachent aux savants, qui sont sur la droiture, car là nous facilite la compréhension. Barakallahu fik, Cheikh Sadio. Effectivement, Ahsent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Naïm. Pourquoi les exemples cités sont de l'usure? Pourquoi les exemples cités sont de l'usure? Alors, je n'ai pas toutes les infos, mais je vais transmettre ce que je connais. Concernant le fait, concernant. Alors, à la base, hein, la base, c'est-à-dire l'asl, la base, c'est que. La base dans l'usure, c'est qu'il y a une injustice que les gens ne voient pas forcément. La base dans l'usure, c'est qu'à la base, c'est parce qu'il y a une injustice envers celui qui va prendre les intérêts. Alors, celui qui prend les intérêts, il est injuste, et celui qui... Enfin, vous avez compris, il y a l'injustice. Pour celui qui va... Par exemple, quelqu'un, il va faire un crédit, lui, il subit l'injustice, et celui qui lui prête, lui, il fait l'injustice. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Donc, à la base, quelle que soit la forme, il y a une forme d'injustice. Alors, les gens de la masse, qui connaissent pas la question du riba en détail, des fois, ils ne voient pas cette injustice. Ah, hein. Oh, c'est mashallah, je peux emprunter une grosse somme et rembourser un petit peu. Mais au final, tu as emprunté 5 000 et tu vas rembourser 10 000, c'est une injustice. Il hein. Faut le savoir, c'est une injustice. Également, il y a des savants qui disent, parce que dans le riba, il y a également, parce que lorsque on va, il est connu dans le détail du riba, c'est connu que ce qui concerne le riba, lorsque vous allez étudier, on va l'étudier dans le fiqh plus tard. Hein. Plus tard, on va l'étudier le riba dans le fiqh. Ça va venir. Quand vous allez étudier le riba, vous allez connaître que il y a une base, c'est-à-dire qu'il y a des matières, des denrées à la base que tu dois échanger au main à main. Main à main. Ça s'étudie dans le fiqh. Les dattes avec les dattes, l'or avec l'or, l'argent avec l'argent. C'est pas dans l'absolu, mais c'est la base. Taïb, sinon c'est du riba. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'injustice. Il y a une forme d'injustice. Également, peut-être, ça je suis pas sûr. Ça je ne suis pas sûr. Hein. C'est que peut-être que... Ça je suis pas sûr, mais c'est une idée que je vous donne. C'est que par exemple, l'histoire du change, c'est que entre-temps, il peut changer le change. Ouais, je te donnerai les dinars de... Vous me donnerez les dinars demain, mais entre-temps, le change, il va changer. Comment on dit le cours du change? Wallahu a'lam. Ça, c'est pas sûr parce que il y a des savants qui disent tu peux, par exemple, comme le font la plupart des Maghrébins, tu peux donner une somme en France, par exemple, j'invente un 10 000 euros et récupérer chez une personne au bled 100 000 dinars. Les savants, ils disent tu peux faire ça, il n'y a pas de riba. Donc ça, je suis pas sûr sur ce que j'ai dit. Le taux de change, il va changer ou ça. Peut-être ça, c'est une erreur. Mais en tout cas, je vous ai donné la base quand on va étudier le fiqh dans le riba. Wallahu a'lam. J'irai vérifier si vous voulez. Je n'ai pas tous les détails. Mais la grande base, c'est qu'il y a une injustice forcément. Assalamu alaikum à Oustaz. Le PDF sur la mixité, c'est prêt. Inch'Allah ta'ala, je t'informerai, Inch'Allah ta'ala, lorsque le PDF il sera prêt, Inch'Allah ta'ala. Je suis surbooké en ce moment. Je suis surbooké en ce moment, donc je m'excuse. Dans votre exemple sur l'échange d'argent pour faire du change, c'est que s'il ne se fait pas de main à main, le taux de change peut évoluer, donc ça n'est plus équitable. Vous avez répondu à l'instant, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah, c'est moi qui vous remercie. Alors, salam alaikum à Oustaz, prendre un crédit avec usure, c'est faire la guerre à Allah. À Oustaz, il y en a qui disent que le riba, on peut le donner à une mosquée ou pauvre. J'ai entendu quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a des savants, donc il y a une divergence. Alors d'abord, on va répondre à la première question. Prendre un crédit usure, c'est faire la guerre à Allah. C'est dans un verset du Coran. C'est dans un verset du Coran qui dit que le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, on dira à ceux qui ont fait les crédits de l'usure, prenez des armes et allez faire la guerre à Allah. C'est dans un verset du Coran. Bi harbin min Allah. Faire l'usure, c'est faire la guerre à Allah, déclarer la guerre à Allah. C'est dans un verset du Coran. Alors, il est vrai que dans un cas de, comme par exemple, dans les comptes en banque, il y a des comptes en banque où code postal, comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle, parce que moi, je suis loin de tout ça. Comment ça s'appelle le compte à la poste, là? À la fin, des fois, fin de l'année, il y a du riba, t'as 50 euros ou quoi. La question a été posée au savant. Ça, tu peux le donner à une mosquée. Par contre, eux, ils vont l'utiliser pour les matériaux de la mosquée. Savon, papier toilette, tout ce que vous voulez. Il y a des savants, ils disent tu peux. Il y a d'autres savants, ils disent tu les donnes à un pauvre. Mais attention, il y a d'autres savants, ils disent non, tu touches même pas, tu dis j'en veux pas. J'en veux pas. Mais attention, ça revient pas à accepter le riba. Parce que c'est pas pour toi. Toi, t'as pas le droit de le prendre pour toi déjà, à la base. Taïb? Wallahu a'lam. Wafik barakallah, Sheikh Abu Youssouf. Afik Barakallah. D'accord, on a encore une question. Tamam. Est-ce qu'il y avait encore des questions sur le chat? Oui, j'avais zappé. Je suis désolé, il y a une question d'une sœur, d'une étudiante. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la question, donc quand on envoie de l'argent au bled, c'est la même chose car il y a des frais. Alors, quand vous envoyez de l'argent au bled, la question a été posée si par exemple, vous savez, par contact, mon père, il connaît un cousin, tu lui donnes l'argent en France, il te la donne au bled, ça les savants, ils ont dit tu peux. Wallahu a'lam, il y a des savants qui disent tu peux. Mais par contre, quand vous envoyez par, comment ça s'appelle, Western Union ou autre, je sais plus comment il s'appelle, Chrono ou je sais plus, toutes ces choses-là, ça, c'est à vous de vérifier. Moi, je n'affirme rien, mais c'est à vous de vérifier est-ce que les frais, c'est du riba. C'est à vous de vérifier ça. Est-ce que c'est du riba ou pas? Si c'est pas du riba, vous pouvez envoyer. S'il y a du riba, vous n'envoyez pas. Comme par exemple dans des comptes en banque où la carte bleue, c'est... où la carte bleue, c'est... Il y a des frais. Quand tu vas utiliser à l'étranger, tout ça. Ça, c'est à toi de te renseigner. Est-ce que c'est du riba ou pas, ces frais-là? Parce que des fois, il y a des frais qui sont du riba. Attention. Il y a des frais qui sont du riba. Donc, si vous voulez qu'on fasse une recherche dans ce domaine sur toutes ces questions qui ont été posées aujourd'hui, c'est du fiqh. On essayera peut-être pas dans le prochain cours de FIRC, mais un jour dans un cours de FIRC, on va faire un exposé sur tout ça. Toutes les questions qui ont lieu aujourd'hui, le riba, envoyer de l'argent, tout ça. Je ferai une recherche et on fera un cours sur ça. Alors on nous dit, Oustad, j'ai vu des personnes faire des doigts sur des bouteilles d'eau et dire qu'elles ont des bienfaits pour les faire boire à des gens malades mentales, physiques. Ils se groupent autour des bouteilles d'eau et récitent des doigts. Alors, il y a deux aspects de la chose. Il y a deux aspects de la chose. La manière, si j'ai bien compris la manière dont vous avez formulé votre question, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Je vais vous donner les deux aspects et je vous dirai la manière dont vous avez formulé votre question, dans quelle catégorie elle se trouve. Alors, dans un premier temps, les savants disent qu'il est permis de lire du Coran dans une bouteille d'eau. De lire du Coran dans une bouteille d'eau. Il y a des savants qui disent tu peux même lire dans du miel, tu peux lire dans de l'eau où il y a du miel, des feuilles de jujubier dedans, etc. Ça, c'est permis de lire. Pour quel motif? Pour que la personne qui est malade, elle puisse boire de cette eau, elle puisse se laver avec cette eau, dans l'intention
que Allah Ta'ala, à travers cela, cette cause, c'est un médicament en fait, c'est comme le médicament. C'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, à travers cette cause, il va te guérir. Ça, c'est le côté légiféré. Maintenant, la manière dont ça a été formulé ici, il y a quelque chose de pas légiféré. Alors, on va relire. J'ai vu des personnes qui font des doigts sur des bouteilles. Faire des doigts, il y a une doigt qui est légiférée. La doigt pour la guérison. On peut lire du Coran, mais on peut lire une invocation comme Ya Shafi, oh le guérisseur, Allah, Ya Allah, Anta Shafi. Par exemple, il y a cette invocation qu'on peut lire dans la bouteille. Les savants disent que c'est permis. Mais elles ont des bienfaits, effectivement. Par l'autorisation d'Allah, c'est une cause de guérison. Pour faire boire à des gens malades, oui, malade mental, oui, malade physique, oui. Mais se regrouper autour des bouteilles d'eau et réciter des doigts, ça, c'est une innovation. La règle de base concernant les invocations. Il y a une règle de base chez les gens de la Sunna. Toute invocation qui est faite en groupe et qui n'est pas légiférée par un texte du Coran ou de la Sunna sera une innovation. Donc le fait de se réunir, un groupe qui se réunit et qui fait des doigts dans des bouteilles, c'est une innovation. Qu'ils font ensemble et tout, c'est une innovation ça. Il faut faire attention parce que l'innovation, elle mène à l'égarement et l'égarement mène en enfer, comme l'a dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on a un problème avec ça, on leur demande c'est quoi votre dalil. Parce que la base chez les gens de la sunna, c'est qu'on ne fait pas une adoration, retiens bien, Cheikh Furqan, chez les gens de la sunna, chez les savants, on ne fait pas une adoration tant qu'on n'a pas une preuve pour cette adoration. Et alors ça, c'est dans l'adoration. Et là, entre autres, c'est une adoration. Hein. Une invocation, c'est une adoration. Et également, on ne fait pas, alors pour tout ce qui est de la dunya, pour les adorations, on ne fait pas sans une preuve. Qur'an, sunna. Pour ce qui est de la dunya, tout ce qui n'est pas adoration, tout est permis jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui l'interdise. D'accord? Donc là, ils veulent faire une adoration, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. À partir de ce moment-là, on dira que c'est une innovation. Naham. Taïb. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais quand même regarder le chat s'il n'y a plus de questions. S'il n'y en a plus, Inch'Allah, ta'ala, on va se contenter. Wa fikum barakallah. Donc, il n'y a plus de questions. Naham. Dans le groupe. Fik barakallah, Sheikh Furqan. Hayakum Allah. Inch'Allah ta'ala, notre cours touche à sa fin. Si vous avez des questions entre-temps, vous avez les groupes, hein, vos groupes Telegram avec vos admins respectifs auxquels vous pouvez poser des questions, Inch'Allah ta'ala. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته